dans le dugout.
Down the left field line. A fair ball. And Miles Straw delivers with a huge RBI double to give the Blue Jays the lead.
Bichette lofts it. Left field and deep. Dominguez sprinting back. Runs into room. It's gone. See you later for Bo Bichette. A two-run homer, and the Blue Jays are doubling up the Yankees, 8-4.
Lifted to left center. Straw jogging to reel it in. He makes the grab, and the Blue Jays win it, 8-4. It's a great day to be a Toronto Blue Jay as they take the series from the Yankees, and the season series goes with them as well.
Rien de moins. It's a great day to be a Toronto Blue Jays.
Oui, monsieur.
Oui, monsieur.
Rien de moins.
Écoute,
dans le dugout avec Hugo.
Mais oui. Les Blue Jays, ils volent haut en ce moment. Là. Ça va très bien. Là.
Ah, écoute, j'avais pas entendu la fin de l'extrait. J'ai entendu pour la première fois. Rien de moins que quand même une bonne fin de description, celle-là. Victoire des Blue Jays hier contre les Yankees de New York. On a gagné la série. On en a parlé un peu en tout début d'émission. Raconte-nous comment a été ce match-là. Il s'est passé plusieurs choses hier dans ce match-là. Il y a une chose que je vais retenir en particulier, mais c'est pas ça qui a changé l'histoire du match, mais je vais te laisser faire le résumé du match, puis je verrai après
un peu de ce que c'est. Ouais.
Ben écoute, les Blue Jays se sont battus juste à la fin. Si c'est bien un point à retenir du match, c'est ça. Écoute, ça commence fort avec justement Andrés Giménez qui vole Trent Grisham sur un excellent jeu, premier frappeur du match. Ensuite, écoute, on commence à prendre du rythme un peu du côté des Yankees. On analyse un peu plus Chris Bassitt. Grisham, ensuite, qui vient voler David Schneider en fin de première manche. Vladimir Guerrero qui se fait retirer sur des prises. Ensuite, début de deuxième manche, Jason Dominguez qui frappe un circuit solo. Les Yankees prennent les devants, mais par la suite, ça s'est quand même tenu pendant quelques temps. Ensuite, en fin de quatrième manche, ben, y a George Springer qui frappe un coup sûr opportun au sein de Max Fried sur une balle qui l'a laissé un peu au milieu de la zone. Vladimir Guerrero Jr. ensuite qui vient frapper un double d'un point, donc qui égalise la marque. Et ensuite, ça a été vraiment une série d'erreurs pour les Yankees. Vladdy qui en a profité pour faire deux points produits pour ensuite donner devant un peu plus loin, 4-2 pour les Blue Jays. On est venu créer l'égalité en sixième manche avec un circuit d'Aaron Judge. Au début, on n'était pas sûr si on voulait l'affronter. Mais finalement, on a décidé de le faire. Aaron Judge qui en a profité à fond. Will Wagner qui vient en relève en fin de sixième manche pour donner encore une fois les devants aux Blue Jays 6-4. Et ensuite, ça a été ça. Chris Bassitt qui a eu une excellente sortie, a fait 7 manches et un tiers. Et ensuite, Justin Brule aussi qui est venu solidifier la relève chez les Blue Jays. Yariel Rodriguez qui a fermé le show. Ça a été vraiment le fun de voir ça. Les Yankees ont commis énormément d'erreurs. Ouais. Et ça leur a coûté le match.
Ça fait deux matchs de suite aussi qu'on commet des erreurs là, chez les Yankees là, en bout de ligne. Là.
Ouais,
ça a été ça hier, puis ça a été ça avant hier aussi dans la victoire. Là.
Ben, les Yankees font partie des pires équipes des majeurs en termes de pourcentage d'efficacité défensive. Anthony Volpe a 13 erreurs. Et là, Jason Dominguez hier, une grosse erreur. Max Fried aussi sur une balle frappée de Vladimir Guerrero Jr. Envers lui. Max Fried qui était embêté par une ampoule à l'index depuis
pas un fameux
jours.
Blister.
Ouais, un fameux blister.
Il y en a moins un peu depuis quelques années, mais il y a eu une époque là, vers 2016, 17, 18, là, après 60% des lanceurs du baseball majeur étaient aux prises avec des ampoules.
Ouais, c'est fou. On se rappelle de Roberto Osuna et Aaron Sanchez chez les Blue Jays.
Ça avait duré.
Il y en avait plein tout le temps. Ouais. Tout le temps, une petite ampoule. D'ailleurs, avait raté quand même 10 jours Freed à cause de cette ampoule-là, finalement. Était en contrôle, avait 3 manches parfaites en début de partie. Puis finalement, en 4e manche, ça s'est écroulé. Donc, je sais pas s'il y avait de l'usure sur son index.
La séquence particulière dont je te parlais, c'est celle de l'officiel Manny Gonzalez qui a fait quelque chose d'assez rare quand même. Raconte-nous ce qui s'est passé dans ce côté-là. C'est pas ça qui a changé le match, mais quand j'ai vu cette image-là hier soir sur les médias sociaux, je fais voir quand même.
Ouais, donc je vous mets en contexte. Oswald Peraza, en début de troisième manche, qui avait en fait la dernière balle lancée dans sa présence au bâton était un peu haute. Manny Gonzalez,
l'officiel
derrière le marbre, appelle la prise et là Aaron Boone est en beau maudit, naturellement. Peraza aussi comprenait.
Avec sa manière avec laquelle d'être en beau maudit, là, t'as l'impression qu'il crachait un peu des graines de tournesol, là, puis il parlait juste avec un côté de la bouche. Là.
Ouais, Aaron Boone a quand même cette bonne personnalité-là. Ouais. Quand il est en maudit, là, il a l'air un peu intimidant, mais il a l'air aussi un peu. Je sais pas, on dirait qu'il va te faire mal après la partie.
Ouais, bref.
Donc, Peraza qui se fait retirer sur des prises. Manny Gonzalez qui parle un peu à Aaron Boone et qui finalement fait. Hey, c'est de ma faute.
Il l'a fait pendant la pause entre les deux manches, un coup que la manche a été terminée. Là.
Exactement. Donc, s'excuse pour le call qu'ils viennent de faire. Et par la suite, il y a eu quand même une autre situation où finalement, ça a été l'entraîneur des lanceurs des Yankees qui s'est fait expulser. Et Aaron Boone par la suite. Donc,
Alors, finalement, on est arrivé au même résultat. Ouais, exact, juste mais décalé juste un peu plus loin.
Exact. C'était une petite virgule dans cette chicane.
Non, mais quand même, je pense que c'est digne de mention. Un arbitre qui, de lui-même, pendant un match, fait signe, OK, je l'ai manqué, celle-là. My bad. Tu le voyais, là, son même sans avoir le micro, tu voyais qu'il a répété My bad quelques fois.
Et exact.
À partir de ce moment-là, tu as vu Aaron Boone aussi faire signe. On passe
beau,
à autre chose.
On
passe à autre chose et on se revoit dans trois manches.
Ouais,
en fait,
ouais, c'est ça. Mais tu sais, à ce moment-là, quand on sent déjà que ça chauffe entre un arbitre et un entraîneur, juste le fait qu'il y a une certaine reconnaissance, ça soit du côté de l'entraîneur ou du côté de l'arbitre, c'est quand même une belle preuve de respect. Donc c'est pour ça que Aaron Boone n'a pas décidé de pousser parce qu'on le sait, les gars, que une fois que ça fait pas l'affaire de certains entraîneurs dans la MLB, ça peut aller assez vite que ça escalade et que là on donne un show. Je tiens à vous rappeler l'expulsion John Schneider, il y a de ça quelques semaines à Sacramento. Il a dû faire la longue marche.
C'est
vers
sa dernière, je pense. Est-ce qu'il est expulsé depuis ce moment-là?
Je pense pas. C'est sa dernière.
C'est sa dernière. Ouais,
exact. Ou là, justement, la fameuse fausse balle de David Schneider. Donc, effectivement, là, on a eu une belle reconnaissance, mais par la suite, ça s'est. Ça a réalimenté ce débat-là un peu plus tard dans le match.
Les Jays qui s'en vont sur la route pour les 8 prochains matchs s'en vont à Détroit. Hugo affronter une équipe. Les Tigers qui, elle, a perdu, s'est fait balayer par les Pirates de Pittsburgh avec une autre défaite hier. Et les Tigers ont maintenant 9 défaites à leurs 10 derniers matchs. Alors, c'était l'équipe de l'or depuis le début de la saison dans l'Américaine. Une équipe qui était menée par Tarik Skubal, le partant qui est en train de connaître une saison au-delà du mot fantastique. Là,
incroyable.
Ben oui, choisis l'adjectif que tu veux. Qui est au-dessus de fantastique. Ceci étant, les Tigers, est-ce que c'est le meilleur moment pour les affronter présentement, peut-être?
Ben, je pense que oui, parce que là, en ce moment, on a un certain rééquilibre à aller trouver du côté de Détroit, une des meilleures formations du baseball majeur, capable de faire beaucoup de choses avec des joueurs de soutien importants. Je pense à des Terry Carpenter, des Zach McKinstry, qui est allé au match des étoiles. Riley Green, exact, qui sont très, très, très bons. Les Blue Jays vont mettre Eric Lauer sur la butte. Eric Lauer, belle surprise cette année, moyenne de points mérités de 2.8. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'il est capable de faire face au jeune lanceur Olson. Lui qui a une fiche de 4-3 et 2.71. Donc, oui, vas-y.
Non, j'allais dire, ce duel-là est samedi, c'est Tarik Skubal pour les Tigers,
exact,
et Kevin Gausman pour les Jays. Alors,
exact,
le troisième des quatre matchs apparaît sur papier comme celui qui va être à ne pas manquer. Là.
Ouais, exactement. Deux lanceurs à retrait sur des prises. Ça va être intéressant de voir ça, mais faut jamais prendre les Tigers pour acquis parce que comme les Blue Jays, c'est une équipe qui sont capables de revenir tard dans le match, créer des momentum, créer un rythme pour justement aller voler des matchs. Donc, ça va être super intéressant. Une équipe qui veut se remettre sur pied et une équipe qui en ce moment connaît une très bonne séquence, là, ça va être un bon duel.
Quelques autres nouvelles dans le baseball dont on a parlé en début d'émission sur lesquelles je veux revenir. Shohei Ohtani, qui a frappé un circuit dans un cinquième match de suite, pourrait battre un record de l'histoire des Dodgers s'il en frappe un lors de son prochain match. Il est devenu le septième de l'histoire des Dodgers à avoir une séquence de cinq matchs avec au moins un circuit. Alors, est-ce qu'il pourra le faire? J'ai l'impression que quand on parle de Ohtani maintenant, on parle de record comme si je faisais une phrase là à propos d'un joueur qui a signé un contrat de quatrième trio avec les Sharks de San Jose.
Ah ouais, écoute, Shohei Ohtani, on dirait qu'il est constamment en contrôle. Et je sais pas si vous vous souvenez, les gars, il y a quelques matchs de ça, avait accordé un circuit en première manche au Monticule, ouais, et avait répliqué directement en frappant un circuit,
exact,
après. Donc,
ben ça, c'était cette semaine, en
ouais,
fait. C'était quelques jours après.
Ouais, exactement,
là,
ouais, exactement. Je pense que c'était contre les Brewers, si je me trompe pas.
Il y a quelques jours, je me souviens plus contre qui, mais ouais, c'est il y a quelques jours à peine.
Ouais, donc exactement. Il y a la puissance, il y a l'œil au bâton, il y a la constance pour le faire. Ça m'étonnerait pas qu'il atteigne ce record-là haut la main, là, Shohei Ohtani.
Justin Verlander a lancé 5 manches hier. Il a cédé un seul coup sûr, 3 retraits au bâton, quelques buts sur balle quand même, mais aucun point alloué. Et au terme de cette rencontre-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu finalement sa première victoire de la saison. Il avait une fiche de 0 et 8 en 16 départs cette année. Finalement, une première victoire pour le vétéran de 42 ans.
Ça fait du bien. Il y a eu une belle prestation. Une prestation de Justin Verlander qu'on connaît avec un bon placement de balle rapide, une belle utilisation de sa balle courbe. Ça a vraiment été, beau de le voir aller, puis ça a donné confiance au restant de ses coéquipiers. Justin Verlander, qui est encore une fois, on en a parlé en début d'émission, une présence importante au sein de ce vestiaire-là des Giants. Une acquisition importante aussi. Et justement, le fait qu'il puisse connaître du succès présentement, alors que la course là, est quand même assez serrée dans l'ouest de la Nationale. Si je regarde ça rapidement, on a les Dodgers à 60-43, les Padres à 55-47 et les Giants à 54-49. Donc, peut vraiment se battre pour une place de meilleur deuxième présentement. Elles sont à un match et demi des Padres. Donc, si on a un Verlander en ce moment qui commence tranquillement à connaître plus de succès. On sait avec l'âge peut-être que ça prend plus de temps, mais si présentement il est capable de connaître une bonne séquence, ça peut définitivement aider cette équipe-là qui est vraiment attachante. Prenez la peine de regarder les Giants, ça vaut vraiment la peine. Des bons lanceurs partants, des contacts constants, mais aussi sont électrisants, un peu comme les Tigers.
Ouais, tout à fait. Les Giants qui sont une équipe qu'on néglige toujours un peu, mais qui tente quand même de sortir la tête de l'eau dans la section ouest de la Nationale où c'est pas facile parce que t'as les Dodgers qui sont sur une autre planète. Les Padres ont une excellente formation. Mm-hmm. Les Diamondbacks déçoivent un peu cette année, ouais, mais je trouve que c'est une très belle équipe quand même. Il y a les Rockies qui sont 8
Rockies
pieds.
Qui sont
D'ailleurs, les Rockies, hier, ont blanchi leur adversaire. C'était la première fois en 220 matchs qu'ils blanchissaient un adversaire. Alors, ils ont réussi à gagner un match hier.
Chapeau à eux.
Ben oui, tout à fait quand même. Mais c'est une section qui n'est pas facile.
Exact.
La section ouest de la Nationale. Hugo, je vais terminer avec deux joueurs individuels au niveau circuit. D'abord, dans la victoire des Mets hier, Pete Alonso a frappé son 248e circuit en carrière. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il s'approche à 4 seulement du record d'équipe des Mets qui appartient à Daryl Strawberry. Alors les Mets, quand même une concession historique dans le baseball majeur. Pete Alonso, dans les prochaines semaines, va devenir le joueur avec le plus grand nombre de circuits dans l'histoire des Mets. Et il y a Bryce Harper aussi qui a frappé son 350e en carrière hier. Alors 350, on commence à être dans un plateau qui est digne de mention.
Oui, c'est une belle marque. Bryce Harper qui a eu vraiment un impact directement lorsqu'il est arrivé à Philadelphie. Et pour Pete Alonso, c'est une belle révélation. Tu sais, Alonso, encore une fois, on parlait de Addison Barger qui a fait ses classes dans les mineurs là, à Toronto. Ben, ça a été la même chose pour Pete Alonso qui, lui, est allé au collège américain, mais où son développement a pris un peu plus de temps que la norme pour un joueur qui se fait repêcher du collège.
Ouais.
A développé sa puissance au fil du temps. C'est un excellent joueur de premier but. Parfois, on a tendance à oublier, mais Pete Alonso fait rarement des erreurs là. Il est capable d'aller chercher des retraits à des moments opportuns dans des situations où il est un peu mal en point. Donc, le fait qu'il puisse rejoindre un nom comme Daryl Strawberry, je pense que tout le monde se souvient de Daryl Strawberry, c'est très impressionnant. Et à noter aussi que Francisco Lindor a frappé un circuit et a mis fin à une disette où il était 0 en 31.
C'était la pire séquence de sa carrière pour Francisco Lindor. C'était tout à fait une anomalie, mais tant mieux pour lui que ce soit réglé.
Exact.
Moi, quand je joue à la balle molle et que je suis 2 matchs de suite sans coup sûr, j'ai l'impression de remettre ma vie en question. Alors, à 0 en 31, je sais pas où je suis rendu mentalement. Là, mais...
c'est difficile. C'est vraiment, vraiment difficile. Et d'ailleurs, durant le match des Jays, parenthèse, mais Jason Dominguez, avant son circuit, était 0 en 18. Donc là aussi ça allait mal, donc
ça allait mal pour lui aussi. Lindor, je pense que c'est encore un niveau
au-dessus.
Ben, d'un c'est 31, mais de deux aussi parce que c'est un plus gros nom quand même.
Ouais, c'est tellement
inhabituel de le voir à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut conclure en disant que les Brewers, après avoir perdu hier, ont retrouvé le sentier de la victoire? Cette équipe-là est toujours aussi phénoménale et hier ça a été 17 coups sûrs dans une victoire de 10-2. Alors ils avaient eu 11 victoires de suite, ont perdu avant hier et hier finalement ils ont repris ils ont amorcé une séquence de une victoire.
Un en un, ça va très bien. Ouais, pour les Brewers, ça a été une victoire super importante parce que là, on s'entend là, le sommet de la centrale de la Nationale, c'est un match entre les Cubs et eux. Donc oui, c'est le support offensif est important. C'est pas le temps d'être dans une disette et on a profité d'une équipe des Mariners qui se battent aussi un peu pour une place au meilleur deuxième dans l'Américaine et qui doivent eux récupérer un peu le rythme là, si on veut avoir une chance d'entrer en séries éliminatoires. Donc victoire importante des Brewers, c'est une équipe que, encore une fois, j'en ai parlé hier, sont vraiment vraiment cool à regarder jouer. C'est une belle équipe, une jeune équipe. Donc
ce qui est cool à regarder avec les Brewers puis avec ce genre d'équipe là, c'est quand c'est une équipe qui est pas supposée gagner entre guillemets, quand tu regardes les joueurs qu'ils ont et qui réussissent quand même à le faire. Alors ça rend ça vraiment cool. Merci pour cette chronique baseball.